Couleur Terre, cultivons la vie, une émission animée par Hélène Hollard, spécialiste en agroécologie, Floem Sève, spécialiste en permaculture, et Lucie Aubin, journaliste, tous deux à retrouver sur Radio Permaculture, et avec bien sûr notre ami fidèle Laurent à la technique.
Adressé aux jardiniers chevronnés, en devenir, ou tout simplement aux curieux ou dépassés par leur jardin, une émission qui sera à votre écoute, à vos questionnements, en donnant de fertiles matières à réflexion.
Comment respecter la vie et intégrer ce respect dans nos pratiques culturelles, économiques et sociales?
Comment construire une agriculture saine et vivante, indispensable à l'humanité, et trouver une autre compréhension de l'écosystème urbain et rural?
Et pour ce faire, une équipe de choc et diversifiée se réunit à ce micro pour partager ensemble ses savoirs spécifiques.
Nous avons observé, nous avons regardé, nous avons analysé notre sol, nous avons réfléchi à ce que nous voulions. Avons-nous vraiment réfléchi jusqu'au bout? Ben peut-être pas, puisque en permaculture, mais également en agroécologie, une des grandes forces de ces approches, c'est que nous réfléchissons quand même un peu beaucoup à ce que nous faisons. Alors certes, beaucoup de gens nous diront qu'au final, c'est beaucoup réfléchir, mais ça nous évite de faire des bêtises. Et c'est ce qu'on va faire encore aujourd'hui, c'est réfléchir un petit peu, mais en restant, somme toute, très pratique, réfléchir au plan. En permaculture, on parle souvent du mot « design ». En agroécologie, on dira peut-être « faire le plan du jardin », parce qu'on a plus de simplicité. Parfois, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, réfléchir à qu'est-ce qu'on veut, où et à peu près, puisque désormais, nous savons ce que nous avons, à nous de voir ce que nous allons en faire. Mais avant de nous lancer, je vais accueillir les personnes qui sont autour de cette table. Alors, il y a Titane qui est là avec ses grandes oreilles et qui écoute et qui est parfois tout en silence et tout en finesse également. Bonjour Titane.
Bonjour Floem, merci.
Nous avons Hélène Hollard, la grande habituée de ce micro, de Cultivons la vie. Bonjour Hélène.
Bonjour Floem.
Et nous avons Meïna Vernet des jardins des Taupes Modèles à Saint-Joire, Taupes, T-A-U-P-E, sinon ce ne serait pas aussi croustillant. Ah oui, il y a un S, me souffle Hélène. Meïna, bonjour.
Bonjour.
Et qui va passer toute l'émission avec nous aujourd'hui. On a bien de la chance. C'est le moment des questions des auditeurs que nous avons pris sur les réseaux, mais pas que, sachant que vous pouvez écrire aussi vos questions à questions@radioperma.org. Nous les attendons avec impatience et nous les recevons avec joie. Et d'abord, une question qui a été envoyée par un dénommé Floem sur la boîte directement de Radio Perma. Suite à l'émission de la dernière fois, j'ai compris que je devais verser de l'acide chlorhydrique dans mon jardin. Je suis très gêné par cet effet de chimique. Puis-je utiliser du vinaigre chaud?
Bon, moi j'ai personnellement jamais essayé le vinaigre chaud, par contre le vinaigre tout court, oui, et l'acidité du vinaigre n'est pas assez grande pour qu'il y ait des réactions efficaces quand on a peu de calcaire, donc non, il faut un acide qui soit fort.
D'accord. Bon, bah tant pis donc, pour les aficionados du vinaigre pour vérifier s'il y a du calcaire dans le sol, ce ne sera pas forcément la meilleure chose à faire.
Non, s'il y en a beaucoup, ça marchera un petit peu, mais s'il y a peu de calcaire, ça ne sera pas suffisant comme acidité. Après, rien n'empêche d'essayer, hein, de faire chauffer du vinaigre, je n'ai encore jamais essayé, voir si c'est une réaction qui est meilleure, qui est plus forte ou pas.
Eh bien, on essaiera pour voir ce que ça donne. Allez, une vraie question cette fois-ci qui nous a été posée par, qui a été posée par Marianne Français du groupe Permaculture Québec cette fois-ci. Avez-vous déjà utilisé du vieux foin laissé en botte aux intempéries, même moisi par endroits comme paillis? J'aimerais couvrir une parcelle d'un champ maintenant afin d'encourager les vers à l'ameublir et que je puisse y semer des légumes au printemps. Ce sont les moisissures qui me chicotent en rapport aux légumes à venir. Participeront-elles au compostage sans apporter de maladies? Est-ce que tout sera naturellement parfait? Merci. Alors, Hélène?
Donc oui, tout sera naturellement parfait. peut lui dire. En tout cas, moi, personnellement, j'ai déjà testé de mettre du foin. Alors, pas forcément dans cette saison, mais la saison a guère d'importance. On peut pailler avec du foin, de la paille ou ce qu'on veut tout au long de l'année. Et si elle en met maintenant, donc c'est en ce moment la question, c'est en hiver.
C'est en ce moment, en plein cœur de l'hiver. Oui.
Voilà, donc effectivement c'est bien parce que ça va protéger le sol, ça va garder la température. Et puis dès que les conditions seront favorables, la vie va se multiplier. Et comme la vie se multiplie beaucoup plus à l'interface, donc entre la paille et la terre, il va y avoir une profusion de vie microbienne et pas que des... Elle parle de compostage, alors je ne sais pas ce qu'elle entend par compostage, il n'y aura pas que ça, il y aura vraiment une intégration dans le sol de tout ce qui sera déjà dégradé dans le foin. Et les moisissures, il n'y a pas de problème, parce que de toute façon, la vie du sol, elle a un potentiel, une capacité de rééquilibrer. Et même s'il y avait une ou deux moisissures qui soient toxiques dans son foin, eh ben, ça serait rééquilibré avec le brassage, avec la vie du sol.
Donc enfin, pas de soucis
en particulier la vie microbienne. Donc pas de souci particulier. Au contraire, là, par contre, le foin, il faut en mettre beaucoup plus épais que la paille. Il faut mettre au moins 40 cm parce que le foin, c'est pas dense. Et donc, pour que la couverture soit efficace par rapport aux adventices, à l'humidité, etc., il faut au moins 40 cm d'épaisseur.
Mais d'une manière générale, hein, le paillage, les gens sous-estiment l'épaisseur
souvent,
nécessaire
ouais.
pour un paillage. Il faut que ce soit obscur en dessous, donc ce soit vraiment sombre de sombre. Et le foin, c'est...
Le foin, c'est très léger. Donc, c'est pour ça que 40 cm. La paille, 20 cm, ça va. Le broyat, bon, on en reparlera sûrement à d'autres occasions. Mais le foin, il faut vraiment en mettre beaucoup. Quoi.
Le broyat, oui, je crois que c'est une dizaine de centimètres,
oui.
Ça suffit.
10-15, ça suffit.
10-15, ça suffit, voilà. Mais voilà, faut être, si vous voulez partir sur du paillage, et c'est important de pailler, eh bien, il faut savoir qu'il faut prévoir pas mal de tombereaux de matière organique et qu'il est important de prévoir l'arrivée de la matière organique sur votre terrain et de vérifier autour de vos terrains, ce que vous pouvez récupérer.
Qu'est-ce qu'il y a comme ressources? Oui, puis on dit paillage, mais ce n'est pas le terme adapté, parce que c'est là, par, en l'occurrence, c'est du foin,
c'est du
ou
fouinage.
Ça peut être du broyat. Voilà, donc c'est de la couverture, couvrir le sol. Quoi.
Est-ce que ça peut être des déchets, par exemple, de rabotage du bois?
Comme des copeaux, des choses comme
ça? Des copeaux de bois, parce
oui,
que
ça,
je peux ça. En avoir énormément, et je sais que je le fais sur mes pots de fleurs, mais est-ce que c'est intéressant?
Alors, oui, mais... Il faudra se méfier à la fin d'azote que ça peut produire. C'est-à-dire que le bois, vu que c'est quelque chose qui ne sera pas équilibré comparé au foin en azote et en carbone, pour se décomposer, le bois va consommer beaucoup d'azote de votre sol. Et c'est pour ça que dans les municipalités, désormais, on met beaucoup de bois broyé, de broyat dans les plates-bandes pour désherber. Parce qu'en fait, ça va enlever l'azote du sol qui sera plus disponible pour les nouvelles plantes. Du coup... Eh bien, Titane, il va falloir faire pipi sur ton jardin. raisonnablement, quand même,
oui.
Parce que l'excès d'azote peut aussi griller les mycorhizes, donc encore quelqu'un d'autre dans votre sol. En diluant votre pipi d'un sur dix, moi, j'ai jamais eu trop de soucis avec mes broyats.
Et en complément, ça dépend quand même des essences d'arbres que c'est.
Oui.
Parce que c'est des résineux, etc. Il faudra les laisser quand même un petit peu de côté quelque temps, que les essences volatiles soient parties, et ensuite les utiliser. Parce que sinon, ça a un effet désinfectant, bactéricide, etc. Donc, c'est pas bon.
D'accord.
Voilà.
Moi, c'est comme ça que je fais des allées en thuya, par exemple. J'ai mon voisin qui a des haies de thuya immenses. Et plutôt qu'il emmène tout ça à la déchetterie, je l'ai fait en thuya. Pour l'instant, j'ai pas encore eu trop de problèmes. Question
Merci.
Suivante d'un monsieur ou d'une madame, je ne sais pas, qui porte ce nom merveilleux de papier mâché. Les joies d'Internet et des pseudonymes. Donc, papier mâché nous pose cette question. Salut tout le monde, papier mâché et convivial. Salut tout le monde, j'ai besoin de vos lanternes éclairées, j'aimerais introduire sur mon terrain de la consoude, mais j'ai lu dans un fascicule que j'ai trouvé en mairie qu'il était déconseillé de planter de la consoude. Changer de mer. Considérée envahissante, auriez-vous des conseils ou des avis? J'aimerais vraiment avoir de la consoude à disposition, aussi bien pour mon jardin que pour ses propriétés médicinales, mais j'ai pas envie de faire n'importe quoi non plus, et cher papier mâché, nous te comprenons. Alors, Hélène ou Méina? Méina
oui.
est toute prête. C'est
Je
parti.
Peux répondre, oui. La consoude, c'est une super plante, donc il faut ne pas tenir compte des avis des maires ou du maire et introduire effectivement de la consoude. Il y a différentes variétés. Donc, il y a effectivement des variétés qui se reproduisent beaucoup par les fleurs et qui ont tendance à devenir envahissantes. Mais envahissantes, ça dépend aussi de ce qu'on veut en faire. Notamment, si vous pensez aux propriétés médicinales, c'est la racine surtout que vous allez utiliser. Donc, il vaut mieux, à la limite, avoir pas mal de plantes pour pouvoir prélever les racines sans perdre de la consoude. consoude. Et puis la consoude officinale qui, elle, a tendance à se multiplier plutôt par le système racinaire et de manière très raisonnable. Moi, j'en ai sur mon terrain, elle n'a pas du tout explosé. Elle reste, on peut la faucher plusieurs fois dans l'année, trois fois dans l'année au moins, et elle se développe, elle disparaît totalement l'hiver et on la retrouve après au printemps sans qu'elle explose du tout partout dans le jardin. Donc c'est une très bonne plante, vous pouvez l'utiliser en paillage aussi, vous pouvez l'utiliser au niveau des feuilles, utiliser les feuilles dans le compost, c'est un activateur du compost, vous pouvez la manger, les feuilles de consoude trempées dans de la pâte à beignets, ça vous fait des sols en fait, vous avez la sensation de manger du poisson alors que c'est totalement végétal. Qu'est-ce qu'on peut, les fleurs, vous pouvez les mettre aussi dans les salades, elles sont comestibles, et puis donc la racine en macérat huileux pour tout ce qui est réparation des tendinites, consoude, elle porte bien son nom, elle est là pour souder. Hélène, tu peux peut-être rajouter quelque chose là-dessus si tu veux, sur la propriété officinale et médicinale de la consoude.
Non, simplement peut-être l'aspect mellifère, quoi. Quand on est dans le jardin, les fleurs, c'est vraiment une plante mellifère, donc c'est intéressant dans son jardin.
Voilà. C'est aussi une plante qui, comme elle a un système racinaire relativement profond, va aussi servir de puiseur d'éléments minéraux en fond de terrain et qui va les ramener grâce à ses feuilles en surface, qui va avoir tendance à faire circuler les éléments minéraux.
Voilà, elle est très riche en potasse aussi, donc c'est une super plante.
Bah donc papier mâché, tu peux faire nimp avec la consoude, semble-t-il, a priori, le seul que ça va gêner, c'est le maire, voilà, et on ne sait même pas vraiment pourquoi, en réalité. Comme quoi, des fois, on peut être maire et rien savoir y faire à la consoude. C'est pas très grave, semble-t-il. On va s'écouter une piste musicale, un titre musical, pas plus tard que maintenant. Merci pour vos questions et merci pour vos réponses.
Excuse-moi, toi qui es au sourire. Où est la place du plaisir? J'ai perdu mon chemin, je crois. Et je suis pas du coin, mais j'aimerais bien connaître ton coin, et j'aimerais bien connaître ton coin.
C'est la première rue à droite.
Nouvel endroit, montre-moi. Tout est bien, que tout tombe bien. Que les tiens se plaisent en ton sein et qu'ils te le rendent bien. Chez vos voisins d'où je viens, chacun n'a pas sa part du butin. Les gros requins entiers, les miettes font les meilleures recettes. Pourtant chez eux tout est colorant, de la cayapa à l'aliment. L'artisan peut pas lutter quand on est à son quartier. Nouvel endroit, montre-moi. Tout est bien, que tout tombe bien. Que les tiens se plaisent en ton sein et qu'ils te le rendent bien. Ailleurs, Pierre a peur de recroiser son agresseur. Trop titi et tétanisé, l'en avait oublié l'heure. Depuis ses rencarts, il y part toujours en retard, décroisant le regard, histoire d'éviter les histoires. Nouvel endroit, montre-moi. Tout est bien, que tout tombe bien. Que les tiens se plaisent en ton sein et qu'ils te le rendent bien. Et là, la tour est câblée, du dernier étage au rez-de-chaussée, du rêve parabolé, emmuré au palier, quel pied. Du coup, chacun sa place, face au faux savoir, chacun son cercueil, devant durant des heures. Chacun sa place, face au faux savoir, chacun son cercueil, devant durant des heures.
dans toi endroit, tu n'es pas que gestion, aménagement, construction. Des citadins sont pas tous éteints, il y a pas que des pauvres, des poufs, des bobites, des bourrins. Effet bain de foule ou silence collégial, tête de gargouille ou de Vénus sans le sable, acrobate tonique, truand fantasmatique, aguicheur fanatique, tarte méchique, oisif actif affiche le décor, kiosque, masque et trottoir, tamisé de corps, en chair, en os, en fait en or, déployé pour témoigner de ton sort, à toi, agora que je ne connais pas. Montre, 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 montre-moi, montre, montre-moi. Des murs en histoire, des rideaux calfeutrés, des rimes de comptoir, des quartiers embrasés. Montre, 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 montre-moi, montre, montre-moi. Montre, 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 montre-moi, montre, 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 nouvel endroit. Montre-moi, tout est bien, que tout tombe bien, que les tiens se plaisent en ton sein et qu'ils te le rendent bien. Nouvel endroit, montre-moi, tout est bien, que tout tombe bien, que les tiens se plaisent en ton sein et qu'ils te le rendent bien. Nouvel endroit. Montre-moi, nouvel endroit, montre-moi. Tout est bien, que tout tombe bien, que les tiens se plaisent en ton sein et qu'ils te le rendent bien.
C'était François Tollet et les Velours dans le titre Nouvel Endroit sur un album qui commence à dater un petit peu. L'album intitulé Un Amont, sachant qu'on peut croiser aussi François Tollet dans la région dans le spectacle Oscar et Victor, ontologie sélective de la chanson française. Vous êtes sur Couleur FM 97.1, vous êtes dans Couleur Terre et nous parlons aujourd'hui du plan du jardin au sens large. Et avant même de parler du plan du jardin, en fait, on va parler de la place peut-être du jardin dans votre système, puisque le jardin est en interaction avec les éléments extérieurs. On a pu en parler lors de notre émission sur le sol, sur l'observation quand on parlait des voisins, etc. Sur la place que va occuper votre jardin dans votre lieu de vie, qui va aussi probablement dépendre de la place qu'il va occuper dans votre vie. Alors, Méina Vernet, Hélène Ollard, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce sujet-là de la place, peut-être du jardin? Quand on parle du jardin, c'est peut-être seulement la partie potagère, mais on peut parler aussi de la cabane de jardin, de la mare éventuellement, puisque souvent il y a de l'eau dans le jardin, de la zone d'observation. Bref, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus?
Oui, pour moi, le jardin, c'est vraiment un tout. On ne peut pas décortiquer un espace en disant, voilà, ça c'est le jardin et le reste du terrain n'est pas. L'important, c'est de voir de quoi on a envie, de quel est le jardin vers lequel on aspire. Je pense que chacun crée le jardin qui est son reflet, qui est son image, et on ne trouvera pas un jardin idéal, on ne trouvera pas deux jardins identiques. Le jardin, c'est une part de nous-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de projeter dans ce lieu? Pour ma part, je crois qu'effectivement, ce qui est intéressant, on parlait d'interface à certains moments, c'est de créer le plus d'interfaces possible sur le site, donc le plus de mini-écosystèmes. Donc voilà, Floem, tu évoquais la mare, des zones de prairies fleuries, des zones de compostage, tout ça, des arbres, des zones de tonte différenciées. Mmh. Vas-y.
Je voulais te laisser terminer. Je vais te laisser terminer. En fait, moi, ça m'a fait penser à un outil qu'on utilise en permaculture, qui est le zonage. Parce que je vais peut-être passer une seconde à parler. En fait, c'est juste un outil. Donc, c'est une vue de l'esprit. Où, généralement, on dit en permaculture que dans notre milieu de vie, on a 5 zones concentriques de 1 à 5, qui sont en fait des zones de fréquentation. Variées, la zone 1 étant la plus fréquentée, la zone 5 étant la zone qu'on laisse sauvage. C'est un peu ce que Hélène appelait dans notre émission sur l'observation, la zone sur laquelle on va absolument rien toucher. La zone 1 étant la zone où on est quasiment tout le temps, et cette zone-là variant dans ses formes, enfin toutes les zones varient dans leur forme en fonction vraiment de la circulation des êtres humains sur le terrain. Pour moi, le potager, il est en zone 1, zone 2, quoi. Il est dans une zone qu'il faut voir très souvent. Ma toute première formatrice en permaculture, Anne Derouet, expliquait qu'une chose très importante dans le jardin à décider, c'était la place du hamac. Parce que c'était la place à partir de laquelle on pouvait observer le jardin, y compris pendant le maintien du jardin, pendant la mise en place, mais aussi pendant que ça pousse, pendant qu'on fait silence et que ça pousse, pour voir ce qu'il y a à faire, où est-ce que ça reste, et que du coup la place de la circulation, l'agrément est à penser aussi comme ayant une fonction à remplir dans le jardin. Et du coup, dans ces zones-là, réfléchir en termes de zones de fréquentation, ne pas forcément mettre les pommes de terre dans l'endroit qu'on voit tous les jours, mais peut-être plus, par exemple, les aromatiques, voire même les aromatiques, les mêmes encore plus proches, à côté de la maison, ça peut être judicieux, puisque c'est des endroits aromatiques où on va tous les jours, peut-être même plusieurs fois par jour, alors que les patates, quand on y va 4-5 fois dans l'année, c'est déjà bien. Donc déjà réfléchir en termes de fréquentation d'une manière générale, ça peut être une option.
Oui, et puis observer aussi comment le terrain vit et fonctionne en fonction des époques, les zones de froid, les zones de chaud, pour pouvoir placer les aménagements en partant vraiment des forces du lieu, plutôt que de décider arbitrairement, ça je vais le mettre là, et après avoir à se battre en permanence, parce que finalement, c'est pas un endroit qui est forcément approprié par rapport au type d'aménagement qu'on va mettre en place.
Oui, je voulais juste rajouter un petit mot par rapport à aussi ce qui me paraît important, cette partie. Bah, tout à l'heure, tu disais le jardin, c'est le reflet de la personne. Et ça, je crois vraiment que le jardin, c'est une création, donc ça fait partie de nous, quoi. Et de partir des besoins, de nos rêves et des besoins, parce que quand tu parlais des zones, en t'écoutant, je me disais, oui, on peut faire des zones comme ça, mais si on a 3 enfants ou 4 enfants ou X enfants, n'importe, même un, ça suffit, hein, qui va passer là au milieu, mettre son souk, etc. Quel espace on va lui laisser? Quel espace on va laisser aux animaux si on en a? Quel espace on va laisser à autre chose finalement, et organiser l'ensemble en fonction de notre vie à nous, de famille ou de fréquentation, de comment on va occuper au sens comment on va vivre dans ce lieu-là, quoi.
Et de l'importance de cette toute première phase d'observation, est-ce qu'il y a des enfants dans cette famille, par exemple, est-ce qu'il faut leur laisser de la place, et quelle place on va leur laisser. Ça me fait penser à une petite anecdote qui était racontée par Steve Reed, où il y a eu un gros crowdfunding pour faire une pompe dans un endroit en Afrique pour arriver à faire à aller chercher de l'eau pour le jardin, et c'était dans un centre d'éducation à la permaculture, ou un éco-centre. Et où en fait finalement tout ça a été résolu par le fait qu'on a juste installé une balançoire à bascule pour que les enfants et que la balançoire étant reliée à une pompe, et il n'y a plus besoin de groupe électrogène, parce que les enfants en fait, en jouant 3-4 fois par jour, venaient remplir les cuves d'eau. Et comment on peut penser ce qui semble être un problème comme étant une source d'interaction positive. Je pense que la réflexion autour de l'interaction, elle prend tout son sens à cette phase-là, à la phase du design, du comment je peux connecter des choses qui me paraissent inconnectables pour qu'elles produisent, mises ensemble, quelque chose de mieux que si elles étaient séparées.
Oui, je pourrais rajouter aussi par rapport au fait de regarder les besoins, regarder aussi les limites. Moi, je vois des jardiniers, effectivement, qui ont parfois peur du temps, par exemple, que leur prendra leur jardin, parce qu'ils n'ont pas énormément de temps. Donc, c'est adapter vraiment la réalité à l'aménagement et aux aménagements.
Donc ça suppose de faire notre bonne observation, la liste de ce qu'on a envie d'y mettre, de nos aménagements possibles, de commencer à considérer les problèmes comme étant des solutions, c'est-à-dire que si on a des animaux qui passent, ben c'est peut-être une source de quelque chose d'autre, j'en sais rien, et de commencer à inverser en fait la réflexion sur comment je peux éradiquer le problème. Et inverser la réflexion pour arriver à comment je peux accrocher à ce problème une charrette de manière à ce que ça devienne une solution. Hélène ?
Il y avait un autre aspect aussi que je trouve important, c'est de Moi, je suis un peu comme ça, c'est-à-dire que le jardin, je l'imagine, et puis voilà, très rapidement, il doit ressembler à ce que j'imagine. Mais en fait, il y a la notion de temps, c'est-à-dire que le jardin, il nous apprend, ben, déjà quand on sème, il y a la durée de la végétation, etc. Mais le jardin, il ne va pas être d'emblée comme on l'imagine. Donc il y a aussi cette notion de durée, de se dire, ben, cette année, ou de progression, quoi, on va dire. Hein. Il ne sera peut-être pas comme ça cette année, mais il sera comme ça à long terme, et puis là, je vais faire ça par là, puis là, après ailleurs, et puis on va s'adapter, il y a des choses qui vont bouger, c'est pas parce qu'on va imaginer le jardin de telle ou telle façon aujourd'hui que demain on va l'imaginer de la même façon, etc. Quoi. Et cette notion, je trouve qu'elle est importante à prendre en compte, quoi, à se projeter dans le temps.
Oui, et c'est un lieu, de toute façon, en perpétuelle évolution. Nous-mêmes, on est en perpétuelle évolution, donc on ne peut pas dire à un moment donné, ça y est, j'ai réalisé le jardin. Parce qu'en fait, on bouge avec le jardin nous fait bouger, et du coup, c'est un espace vivant qui est amené à évoluer sans cesse, et c'est magnifique.
Oui, c'est l'équilibre dynamique de la vie, en fait. C'est un équilibre systématiquement instable. Mais du coup, ça me porte sur la question du plan du jardin, parce qu'on en parlait lors de la préparation de cette émission. On parlait notamment du jardin-forêt. Quand tu parles de, oui, il faut se projeter pour voir la chose, parce qu'en ce moment, en tout cas en permaculture, de temps en temps, il y a comme ça des modes en permaculture. Il y a la spirale aromatique, le jardin mandala, le jardin forêt, la butte. Voilà, c'est ça. C'est un peu, voilà, on a un peu les motifs quasiment des... les motifs imposés de la permaculture, alors qu'on sait très bien que quel que soit l'endroit, il faut s'adapter à l'endroit où on est. Et le jardin-forêt, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'idée c'est d'avoir, ça s'appelle aussi la forêt nourricière, l'idée c'est d'avoir un jardin essentiellement composé, structuré par des arbres, souvent fruitiers, avec un couvert d'arbustes, et puis des plantes herbacées à leurs pieds, des champignons, donc l'idée c'est de reconstruire une forêt, avec aussi pas mal de plantes herbacées vivaces, l'idée étant de produire beaucoup de travail au départ pour à terme avoir un jardin forestier où on va essentiellement récolter. On peut renvoyer au livre de Martin Crawford sur le jardin forêt pour ceux qui veulent en savoir plus. Mais le problème, et ça c'est Christophe Petit qui le disait très bien, qui est un permaculteur qui bosse dans la forêt en Savoie, qui dit le meilleur moment pour planter un arbre c'était il y a 20 ans, et le deuxième meilleur moment c'est maintenant, mais le premier meilleur moment c'était il y a 20 ans, et du coup avant que tu aies un jardin forêt tu peux attendre 20 ans, donc la projection elle est intéressante à faire, et surtout avant d'avoir un jardin forêt tu auras un jardin soit en plate-bande soit en mandala, mais tu auras un jardin à plat, quoi. Tu auras quelque chose un peu basique. Donc, le premier motif, mais qui peut être un choix, hein, pour moi c'est ça pourrait être le jardin forêt si c'est votre goût. Un autre motif que je verrais, je sais pas ce que vous en pensez, moi c'est ce que j'appelle le jardin en carré, enfin avec tout un tas de toutes petites zones, donc je rentrerai là-dedans le jardin en mandala, je rentrerai un petit peu ça le jardin en spirale, où en fait chaque zone est occupée par un végétal. J'ai beaucoup moins de difficultés avec un jardin comme ça, parce qu'en fait ça peut être posable beaucoup plus facilement, ça peut se poser même en bac, en milieu urbain, ça peut se faire.
Après je dirais ça va dépendre de la morphologie de notre terrain, parce qu'on va s'adapter au terrain qu'on a, et après à notre tempérament aussi. Par exemple, moi je vais plutôt avoir une vue globale du jardin avec un dessin ou une forme qui va être l'ensemble du jardin, puis après là-dedans il y aura des petites taches et des petites zones, mais voilà, je vais plutôt raisonner comme ça. Puis il y a d'autres gens, ils vont plus raisonner d'abord par les petits endroits et après voir ce que ça donne globalement. Donc c'est vraiment notre tempérament qui va faire ce choix-là, je trouve.
Et notre réalité de vie, c'est vrai que les bacs, même en pleine terre, ça a l'avantage d'avoir des allées bien délimitées quand on a des enfants, de les impliquer sur le jardin de manière facile, voilà, et d'éviter ces traumatismes qu'on peut porter après adulte, de ne pas pouvoir rentrer dans le jardin parce qu'on le dégrade quand on est enfant, ou d'avoir que le côté qui peut être vécu comme contraignant quand on est enfant, des récoltes, etc. Mais impliquer les enfants différemment, donc c'est vraiment notre réalité qui va créer le dessin du jardin.
La nôtre, et qui on est, et le terrain. Quoi.
Et le terrain.
Parce que c'est vrai que des allées fixes, ça a aussi des inconvénients. Donc, selon comment on va vouloir gérer après. Quoi. Moi, je sais que j'aime bien changer les allées tout le temps, de place. Et voilà, donc ça va dépendre
Moi, pas du tout.
Voilà, comme tu vois. Voilà. Donc, on n'aura pas le même jardin.
Et non, clairement pas.
Mais on évoquait effectivement, dans la préparation de l'émission, Gertrude Franck, qui travaillait au niveau des allées, justement, qui faisait ses allées en épinards, et donc des bandes de, je ne me souviens plus très bien, le 40 cm. Voilà, et puis on en reparlera pour la suite de l'émission.
Ouais, très bonne idée. On se fait une petite pause musicale. À tout de suite.
Fais le barbeau dans ta cage à oiseaux, mais dors, dors, fais le mort, cache, dégage de ton automo. Bille, t'es immobile pour être aussi débile ou bien te laisse son défunt, pas de pas te laisser me prendre en stop. Joule en stop, joule en bouette, en stop, joule en stop, joule en. Sur ton tronc, contrôle la circulation aux aguets piétons, aux larmes, autostoppeur, autoradio, à donf. Tu nous les gonfles autant, écoute ta techno-baladeur. On stop, je voulais en stop, on stop, je voulais en poète. On stop, je voulais en stop, on stop, je voulais en. Facile, sublime, défile dans ta caisse et moi, roi sous mon bonnet en mousse, je crois. Quoi attendre, mon pouce et moi, roi sous mon bonnet en mousse, je crois. Quoi attendre, mon pouce et moi, roi sous mon bonnet en mousse, je crois. Quoi attendre, mon pouce et moi. Toi, attendre mon pouce, c'est moi. Toi, sous mon bonnet en mousse, je crois. Toi, attendre mon pouce, en stop. Je voulais en stop, je voulais en ouette, en stop. Je voulais en stop, je voulais en stop, tigidum, stop, tigidum, stop. Stop, tigidum, stop, tigidum, stop. Stop, 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 stop.
François Tollet en stop sur son album Un amont. Vous êtes sur Couleur FM 97.1 dans Couleur Terre. Alors avant la pause musicale, on parle aujourd'hui du plan de jardin, on a parlé du jardin forêt, on a parlé du jardin en petites cellules, comme les jardins mandalas, des choses comme ça. Et Meïna nous parlait du jardin de Gertrude Franck, feu Gertrude Franck, qui elle faisait des lignes. Est-ce que tu peux nous peu détailler un petit peu son fonctionnement de jardin ?
Oui, en fait elle séparait son jardin en bandes de cultures, qui étaient séparés par des allées de même taille, de même largeur.
25-30 cm,
oui. Et donc, dans les allées, elle se met un engrais vert. Donc, à l'époque, elle se met d'épinards. Et sur ces planches de culture, elle cultivait. Et l'année d'après, ces planches de culture devenaient des allées qu'elle ensemençait à nouveau avec des épinards. Et ces allées devenaient des bandes de culture. Et ce qui faisait que le sol était fertilisé en permanence par ce couvert végétal, qui soit cultivé pour les légumes à récolter ou qui soit d'engrais vert. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire. Bon, les graines d'épinards, c'est un peu cher de nos jours, mais on peut tout simplement laisser de l'herbe dans les bandes plutôt que de tout raser, tout nettoyer. Des allées, c'est important à concevoir dans un jardin. Il faut forcément des lieux de circulation, mais c'est important que ça ne soit pas là non plus de l'espace nu, parce que le sol a besoin d'être protégé aussi dans les allées. Et ça peut permettre, si on veut changer ces allées de place d'une allée sur l'autre et changer la physionomie du jardin, de le faire sans avoir laissé des zones qui se sont compactées et qui ont souffert d'être mises à nu.
Alors, à noter que Gertrude Frank, son système est beaucoup plus complexe que ça, mais aussi, du coup, beaucoup plus intéressant, parce qu'elle, dans son plan de jardin, elle réfléchit aussi directement aux rotations, parce que... oui, Méina.
Aux associations.
Et aux associations de plantes, puisque je crois même son livre s'appelle « Un jardin sain grâce aux cultures associées », que vous pouvez trouver aux éditions Imagine à Colibri, et qui montre pas mal d'exemples de ça. Cette rotation-là, en fait, étant basée sur la longueur qui va être la longueur de la période de temps qui va être occupée dans une année par la ligne que vous allez utiliser. Donc elle définit des lignes A, des lignes B, des lignes C, et chaque ligne étant intercalée, bien sûr, avec une ligne d'épinards, comme tu le disais. La ligne A étant ceux des plantes qui occupent toute l'année le terrain. La ligne B, où on peut avoir deux végétaux différents cultivés sur l'année, sur deux périodes différentes. Et la ligne C, des cultures très courtes, donc des carottes hâtives, des oignons, des choses comme ça. Et l'intérêt de son jardin planifié comme ça, c'est qu'en fait, ça devient un immense tapis roulant, puisque au final, une fois qu'elle a fait son plan et défini quelles étaient les cultures A, B et C, et ben après, elle ne faisait que décaler de 25 cm tous les ans, ce qui est un système que, personnellement, je n'ai jamais testé, mais qui, sur le papier, semble assez élégant. Parce que c'est vrai que la question de la rotation et de la planification, c'est toujours un peu un casse-tête quand on arrive dans ces saisons-là du mois de janvier et qu'on se dit qu'est-ce qu'on va faire. Le mois de janvier, c'est même un peu tard, mais qu'est-ce qu'on va faire comme chose comme ça. Donc voilà, trois grands plans, le jardin forêt, le jardin en cellule, le jardin en bande alternée de Gertrude Frank. Qu'est-ce que vous en voyez d'autre, vous ?
Comme grand principe, peut-être en tout cas, je dirais sur la forme générale du jardin, est-ce qu'on va travailler en planche rectiligne, est-ce qu'on va travailler avec des formes de spirale, est-ce qu'on va travailler avec des formes courbes, est-ce qu'on va travailler, donc déjà sur le plat, est-ce qu'on va avoir des formes, et ensuite, est-ce qu'on va faire des reliefs
Ça, on peut en parler, parce que du coup, on rentre encore peut-être dans une autre chose, où la question des formes, et puis en perma, comme en agroécologie, la question de la forme générale et des motifs, parce qu'on s'inspire quand même très souvent des motifs naturels, pas seulement parce qu'ils sont beaux, mais aussi parce que souvent c'est les plus efficaces. Sinon, ils ne seraient pas sélectionnés dans la sélection naturelle, hein, basiquement. Mais la question de la spirale ou la question des lignes, ça peut avoir un impact.
Ça fait penser à autre chose, parce que bon, les spirales, les formes, ça c'est travaillé en biodynamie, par différentes écoles, on va dire. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vu des jardins qui sont réfléchis à partir des couleurs. Et ça, je trouve c'est sympa aussi. C'est-à-dire, on fait une zone bleue, une zone rouge, une zone orange, une zone. Et que ce soit des fleurs, des légumes, etc. Il y a des zones comme ça de couleurs. Et ça peut être aussi ça. Hein.
Oui, je pense que la notion de beau est fondamentale dans le jardin. C'est un lieu qui est profondément inspirant, qui nous inspire. Et amener du beau, que ce soit par une thématique couleur ou une thématique de forme, de toute façon, les deux peuvent aussi s'entrecroiser. C'est important de penser pas seulement horizontal quand on conçoit le jardin, mais penser aussi vertical. Donc, même si on ne crée pas de but dans le jardin, créer des espaces où les plantes peuvent monter. Voilà, en fait, diversifier la encore diversifier les étages, même si on n'est pas dans la dynamique de la forêt jardinée, mais diversifier les étages, diversifier les formes, plus on mènera d'expérimentations et plus on aura de choses différentes, plus ça va être riche.
Oui, juste un petit mot par rapport à ça, c'est le jardin un peu idéal ou modèle et tout ça, c'est le jardin type créole, quoi, qui va être décliné de différentes façons, mais c'est un peu ça la base, quoi, en agroécologie, un peu mal.
Qu'est-ce que c'est que le jardin type créole?
Jardin créole, ça veut dire c'est sur des petites surfaces que les créoles, créoles, il y en a dans différentes zones du monde, mais là, par exemple, à La Réunion, c'est des jardins qui sont petits, pour nourrir une famille, Et donc, tous les étages sont occupés depuis la patate douce donc, qui couvre le sol. Après, donc, il y a le maïs avec le haricot qui grimpe dessus. Ensuite, il y a des arbustes. Enfin, tous les étages verticaux sont occupés, sont cultivés.
Ça ressemble un peu au jardin-forêt dans l'organisation.
On ne met pas forcément des arbres. Ça peut être des cultures annuelles. Disons qu'à la fin, le plus grand étage, ça va être des arbres qui poussent naturellement. Mais par contre, on intensifie, en fait, la moindre petite surface est intensifiée par ce jardin multi-étagé aussi qu'on appelle. Mais c'est le jardin un peu, oui, on pourrait dire rêvé en agroécologie ou même en permaculture. On utilise vraiment tous les niveaux.
Parce que ça, d'une manière générale, c'est quand même plus on a des surfaces faibles, plus il faut intensifier, plus il faut mettre des plantes les unes. Plus il faut être intensif, en fait. Mina, tu voulais rajouter
quelque chose? Oui, ça va dans le même sens. C'est-à-dire que quand on regarde dans la nature, il y a de l'intensité au niveau de tout ce qui pousse. Nous, on décide que voilà, il faut 40 cm entre les bandes de haricots, mais c'est très arbitraire. Et à partir du moment où on commence à travailler en association de culture, on va se retrouver à densifier. Et dans l'exemple cité par Hélène, en fait, on occupe mieux l'espace. Deux, les plantes, on est sur une logique de plantes compagnes qui vont s'apporter vraiment des bienfaits à la fois au niveau racinaire mais aussi au niveau aérien, et donc on va vers la santé globale du jardin.
Oui, et puis là du coup ça nous porte à réfléchir puis peut-être à parler des compagnies de plantes. C'est peut-être le moment d'aborder cette question là le fait que des plantes on plante rarement quelque chose de manière isolée. On met souvent des plantes les unes avec les autres. Alors il y a plein de manières de faire des compagnonnages. Alors celui dont tu as parlé, le jardin créole ou jardin forêt, en réalité, il s'agit de remplir les espaces vides, enfin, pardon, pas les espaces, les volumes vides, parce que très souvent, c'est un travers de l'agriculture conventionnelle, on cultive des hectares, et du coup, ça veut dire qu'on cultive à plat des surfaces, alors que nous, on va avoir tendance à cultiver des volumes. C'est-à-dire que quand je vois un champ de blé où il y a 40 cm de blé, je vois surtout beaucoup de vide au-dessus, moi. Donc on va essayer de remplir des espaces en tutorant, etc. Ça, on l'a abordé. Mais on peut aussi mettre des plantes compagne avec leurs fonctions. Parce que des fonctions, il y en a un paquet. Il y a celle de fixer l'azote, il y a celle de faire de l'ombre parce que parfois c'est nécessaire, celle d'attirer des pollinisateurs, celle de faire un peu plante forteresse contre des ondes qui vont défavoriser les animaux qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Les accumulateurs, les bioaccumulateurs dynamiques, on parlait de la consoude il n'y a pas très longtemps. Tout ce qui peut inhiber des croissances, enfin voilà, à chaque fois qu'on a envie d'avoir des interactions. Celle qui est la plus connue de compagnie de ce type-là, c'est la Milpa. Il me semble qu'elle est connue. C'est l'association d'une légumineuse, d'une cucurbitacée et d'un pied de maïs. C'est sud-américain, où grosso modo la légumineuse amène la fixation d'azote, le maïs va amener le tuteur pour la légumineuse, et la courge va amener de l'ombre pour tout le monde au sol, va amener de l'ombre et donc de l'humidité. Meïna ?
Oui, et moi ce qui me touche dans cette association, c'est que les Amérindiens l'appelaient les trois sœurs, et c'est cette notion de sororité ou de fraternité qui montre comment effectivement des peuples anciens qui n'avaient pas forcément les connaissances agronomiques du tout, mais avait la prémonition et la conscience que les végétaux sont des êtres intelligents et dotés d'intelligence sociale, qui plus est, pour pouvoir fonctionner ensemble. Et moi, je suis très touchée par cette appellation, les trois sœurs. C'est quand même pas rien dans un jardin d'amener une dynamique comme ça. Donc, on est sur un... Le mot compagnonnage, pour moi, il est presque trop faible. Il faudrait trouver quelque chose.
Oui, déjà, c'est un terme quand même humain.
C'est un terme humain.
Donc déjà, ça s'approche aussi. Et en tout cas, c'est sûr que c'est extraordinaire les techniques que les plantes ont prises pour vivre ensemble. Que ça soit, tu as beaucoup parlé de tout ce qui est aérien, mais aussi tout ce qui va se passer sous, au niveau des racines, etc., et qui est un monde extraordinaire.
C'est vrai que je n'ai pas parlé des champignons, des symbioses qu'il peut y avoir à ce niveau-là.
Déjà, au niveau du sol, les associations déjà, l'association de la plante et de la terre qui la porte, comment elle va améliorer la terre. Quand on a parlé du sol, on n'a peut-être pas suffisamment dit aussi que la plante va aussi participer à améliorer le sol, parce qu'elle va fabriquer, par exemple, dans un sol argileux, la plante va fabriquer du sable. Elle va neutraliser un peu l'effet asphyxiant de l'argile, et inversement, elle va produire ce qui va équilibrer la nature du sol. Donc nous, on n'a pas le moyen de faire ça, mais la plante, elle l'a, quoi. Mm-hmm. Donc ça, c'est vrai que le monde souterrain, il est vraiment important, quoi. Mm-hmm.
Une autre manière de réfléchir aux compagnies de plantes. Alors moi j'utilise le mot compagnie, oui. C'est vrai que moi, je suis tout à fait d'accord, c'est réducteur dans la mesure où là on a trouvé un mot, enfin on est un peu comme des poules qui ont trouvé un couteau avec ces idées d'association de plantes, parce que dans la nature les plantes sont toujours associées. Mmh. Et du coup c'est pour moi la troisième manière de faire des compagnies, en plus de remplir les vides, de remplir les fonctions, pour moi c'est de copier celle qu'il y a déjà dans votre jardin. Parce que si déjà dans votre jardin vous avez de la potentille, ben peut-être que ce sera bien, faudra peut-être mettre des fraises. Si vous avez des graminées, c'est peut-être le moment de mettre des céréales. Si vous avez de la brionne, vous pouvez mettre des courges, de vérifier en fait quelles sont les familles de plantes qui sont déjà dans votre jardin. Parce que ça se trouve, il existe des plantes cultivées, ben, déjà celles qui sont dans votre jardin sont potentiellement comestibles pour certaines, hein, pour même probablement la plupart, elles sont peut-être pas forcément bonnes tout de suite, mais il faut les accommoder, c'est comme la plupart des plantes. Mais il y a peut-être aussi des versions sélectionnées, etc., qui pourront prendre avantageusement la place dans ce jardin-là. Donc c'est une possibilité d'envisager les choses. Le temps tourne, je propose qu'on parle un tout petit peu de calendrier des cultures juste après la pause musicale, parce que le calendrier des cultures c'est aussi une forme de plan, une forme de réflexion à avoir sur le jardin. Mais d'abord quelques notes de musique.
J'en simple accueillant le jour comme une mère qu'il n'a pas, externalisant son lourd passé, poivreau toxico, brigand mendiant. Il a nettoyé les pots cassés. Foutu paradis perdu, deux, trois sous sans plus. Aucun égard aux égarés des rues. Pantomime cyclique, pantomime cyclique. Et de rame en rame, une pièce. De rame en vanne, une pièce jaune. Insoumission sont ces deux calvaires. Il erre dans l'esprit des gens pressés. Pommier, paumé, sans tuteur, sans fleur. Sans doute, sans ancrage, sans âge. Juste un pépin pour base. Et de rame en rame, une pièce jaune. De rame crâne une pièce.
Couleur FM 97.1. Il s'agissait encore une fois de notre disque de la semaine, François Tollet et les Velours, l'album Un amont. Le titre, c'était Une pièce jaune. Nous revoilà dans le studio de Couleur Terre avec Meïna Vernet et Hélène Ollard. Nous parlons du plan de jardin. Et en fait, la planification qu'il est important à faire dans le jardin, c'est aussi le calendrier de culture, puisqu'il y a des plantes qui vont tenir 3 mois sur le terrain, d'autres qui vont tenir l'année. Comment on arrive à mettre tout ça dans le même panier, Meïna ?
Ben déjà, c'est de faire la liste de ce qu'on souhaite mettre. Je dis ça d'expérience, parce qu'une année, je ne l'ai pas fait. J'ai complètement oublié de semer mes radinois. Et quand je m'en suis rappelé, il était déjà un peu trop tard. Voilà, donc de lister ce qu'on souhaite récolter, manger et cultiver. Ce qu'on souhaite aussi ne pas manger, mais voir pousser. À partir de là, bah, c'est de regarder effectivement à partir de quel moment on réalise les semis. Est-ce qu'on réalise des semis à chaud? Est-ce qu'on réalise des semis en pleine terre? Bon, regardez un petit peu ça. On aura une émission, je pense, pour détailler tout ça. Et puis, d'intégrer effectivement le cycle de culture de ces végétaux. De manière à voir si c'est un cycle long, qu'est-ce qu'on met derrière pour préparer l'automne-l'hiver, est-ce qu'on met des engrais verts, est-ce qu'on paillera simplement, les cycles plus courts, qu'est-ce qu'on met comme légumes derrière, puisque sur des laitues, des radis, on peut vraiment mettre d'autres choses. Et puis donc dans ce plan de jardin, qui va nous permettre, bon alors en année 1, de garder une trace pour prévoir les rotations de la deuxième année, mais aussi d'intégrer dès la première année les associations végétales, les compagnonnages, voilà, ce qu'on évoquait avant, parce qu'en fait, il faut le prévoir sur plan, pour pouvoir le réaliser dans l'espace. Ça ne veut pas dire qu'un plan est figé, c'est comme l'aménagement global du jardin, c'est quelque chose qui évolue. Le plan même de culture, il va évoluer, parce qu'on va récupérer une plante dans un troc, et on va se dire, bah, tiens, il faut que je la mette quelque part, donc ça viendra bousculer le plan bien établi qu'on a tracé au départ, mais en tout cas, ça va donner une ligne pour pouvoir simplement planifier les semis, les récoltes et la préparation du sol en vue de l'année d'après. Parce que dans ces préparations-là, on va intégrer des légumineuses, donc qui vont apporter de l'azote au sol, que ça soit en engrais vert ou que ça soit des légumineuses qu'on va manger. Hein. Donc maintenant, on les appelle les fabacées, c'est le nouveau nom botanique.
Ça fait 15 ans que c'est nouveau.
Voilà. Bon, mais parce que c'est resté quand même dans la langue courante. Oui, on parle de légumineuses. Voilà. Bon, donc petits pois de toutes couleurs, pois gourmands, haricots verts, fèves, etc., sont intéressantes effectivement quand on travaille le plan de jardin, parce que ça va permettre dans les rotations de se dire, là où j'ai mis des fabacées, l'année prochaine j'y mettrai des plantes gourmandes de type cucurbitacées, solanacées, tomates, courges. Voilà.
Hélène, quelque chose à rajouter là-dessus?
Non, pas spécialement pour l'instant.
D'accord. Toi, tu le fais comment? Enfin, vous le faites comment, votre planification? Vous le faites sur papier? Enfin, moi, je sais que je le fais souvent sur un tableur, parce que ça me permet de modifier des choses. Vous prenez vos crayons de couleur? Vous faites comment? Non, mais parce qu'en pratique... Parce qu'en fait, vu de l'extérieur, ça paraît quand même enfin une chose peut-être que j'ai envie de j'ai envie de rassurer les gens qui nous entendraient, parce que moi c'est ça fait pas très très longtemps que je suis dans le jardin, mais j'ai commencé tout petit, et ça c'est une chose qui me paraît importante, c'est que si vous vous êtes jamais mis au jardin et que vous tombez par hasard sur ces sons, ça peut valoir le coup de commencer sur 1 mètre, 3 mètres, 4 mètres carrés, peu, et puis d'agrandir au fur et à mesure de vos compétences, de vos capacités, de ce que vous voyez, et pas de partir sur « oh là là, j'ai 35 mètres carrés » ou « 100 mètres carrés, je vais faire mes 100 mètres carrés, yala. » Je pense que ça vaut le coup de commencer petit, avec des choses simples et faciles à réussir, type des salades en planton, enfin, et d'avoir des réussites. Pour moi, c'est une chose importante dont on n'a peut-être pas parlé plus en amont dans l'émission, c'est la question de cultiver des choses simples pour commencer et pas forcément vouloir absolument cultiver un légume exotique. Vouloir commencer petit et aller grandir doucement, en fait.
Alors, comme il y avait plein de questions dans ce que tu as dit, mais la première, sur comment on faisait le plan et moi, comment j'ai vu les gens qui n'avaient jamais fait de jardin démarrer. Donc souvent, c'est avec un papier, un crayon et des crayons de couleur. Mais une fois, ce que j'ai vu qui était intéressant, c'est une femme, elle avait trouvé sur Internet plein d'illustrations, d'images de légumes. Donc elle avait fait effectivement une dizaine de légumes différents. Et elle avait mis les dessins comme ça sur l'ordinateur. Donc ça faisait une espèce de planche avec une tomate, une carotte. Enfin, et donc c'était très, très visuel. Et en fait, elle pouvait bouger les images, et donc c'était facile aussi à manier pour après, ben, pour les rotations, pour associer, etc. Et je trouvais que ça, ça lui avait simplifié. Elle l'avait montré aux autres jardiniers, c'était tous des gens qui démarraient, et ils avaient tous trouvé ça super comme façon de faire, quoi. Donc ça peut être ça.
Oui, je pense aussi que c'est important de trouver quelque chose qui ne soit pas trop cérébral, parce que c'est quand même une sacrée prise de
tête
visuel,
quand on commence
à s'y mettre. Oui, s'y mettre avec les mains, avec le corps parfois, de manière un peu plus...
Alors un truc facile effectivement pour récupérer ces images, parce que moi c'est un outil que j'ai construit pour travailler sur le plan de jardin rotation.
En fait, la femme dont tu parlais, c'est Meïna.
non, on n'en avait jamais parlé.
Non, c'était quelqu'un qui était dans un stage et qu'on n'avait jamais fait.
C'est dans les semenciers, ils ont des catalogues de semences papier, et parfois il y a justement ces photos en petit format, donc il suffit de les découper et voilà, hop, on peut jouer avec et voilà.
Oui, on peut le faire sur papier, là elle l'avait fait sur ordi, mais...
Après, sur la question effectivement de démarrer petit, je pense que c'est important, la notion de résultat aussi, parce que si on démarre trop grand et que ça correspond pas à nos attentes, en fait on reste sur un échec et ça peut décourager bien du monde. Donc il vaut mieux démarrer petit et puis agrandir, voilà. Et ça veut pas forcément dire, si on a 100 mètres carrés de jardin, laisser 75 mètres en friche. Non, on peut très bien dire, bah là je mets un engrais vert, ça travaille, et puis je me concentre cette année sur cette partie-là. Ou je paille, ou je couvre le sol, peu importe. Mais je pense notamment aux jardiniers qui ont aussi des petits espaces, que ce soit les jardiniers urbains ou... Eh bien, voilà, on peut parler des gens qui ont des espaces sur le balcon. Oui, on peut cultiver sur des balcons, là encore, en ramenant à nos besoins. Est-ce qu'on a envie que de plantes aromatiques pour faire des tisanes? Ou est-ce qu'on a envie d'avoir quand même quelques radis et laitues? Et plus on a un espace plus petit, plus on va être inventif sur les associations de plantes et finalement densifier l'espace. On peut imaginer des fraises dans des tours à fraises, on peut imaginer des pommes de terre dans des tours à patates, où au lieu de mettre le légume qui va partir en horizontal, le faire monter à la verticale. Moi je l'ai testé sur les pommes de terre, ça a marché, je ne l'ai jamais testé sur les fraises, mais voilà. Donc en fait le manque d'espace, là encore je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, au lieu d'être un problème, va générer des solutions créatives et inventives pour créer.
Moi, je voulais juste revenir sur la réussite ou pas réussite et tout ça. Je pense que dans un jardin, c'est quand même, ou dans une jardinière, enfin n'importe quoi qu'on va mettre en culture, on va faire des erreurs, et ces erreurs, c'est important de les faire, parce que il faut s'en donner le droit, je pense que c'est important, et que c'est pas des erreurs, à chaque fois c'est une expérience, et on va apprendre beaucoup plus de ce qu'on n'a pas réussi finalement que de ce qu'on a réussi facilement, parce qu'on se rappellera peut-être même pas à quel moment on l'a mis, quelles circonstances. Donc cette notion de réussite ou d'échec et tout ça, c'est À mon avis, c'est à relativiser, à dire au contraire, faisons beaucoup d'expériences, beaucoup de bêtises, beaucoup de... Donc ce ne sera pas des erreurs, ce sera des expériences. Et c'est ça qui va nous permettre d'avancer, de bouger les choses et tout ça, quoi.
Mais je suis d'accord avec toi, d'autant plus qu'on n'est pas du tout, on n'a pas la maîtrise des choses. Donc après, il y a les facteurs climatiques, il y a tous les facteurs qui nous échappent, les campagnols qui viennent tout boulotter dans le jardin. Et je parle d'expérience, voilà quelque chose qu'on peut pas contrôler. Et du coup, voilà, on avance avec et quelque chose qui aura bien marché une année, l'année d'après ne marchera peut-être pas, mais ça n'a pas d'importance. L'idée, c'est de rester connecté à ce vivant.
Sur les espaces contraints dans lesquels on peut jardiner, Hélène, est-ce que tu as des choses supplémentaires à ajouter?
Moi, je pense que c'est un des espaces où c'est beaucoup plus difficile quand même. Effectivement, il y a plus de créativité, etc. Parce qu'en fait, on veut toujours faire beaucoup de choses et là, on a très peu d'espace. Mais en même temps, c'est beaucoup plus difficile de gérer tout ce qui va être biodiversité, les auxiliaires. Ça, d'installer un écosystème dans une jardinière ou sur un balcon, ça va être très compliqué. Enfin, beaucoup plus compliqué, quoi.
Et on n'aura pas le sol vivant aussi.
On n'aura pas l'accès au sol, voilà. Et puis, il y a, par exemple, sur un balcon, ça va être cramé en été, un frigo en hiver, c'est difficile aussi. Enfin, il n'y aura pas cette régulation qui est faite par la terre, par les arbres, par la végétation.
Ça peut s'amener, je pense, sur un balcon, mais il faut. Ça dépend quand même de la taille du balcon.
Quoi.
Sur petit balcon, il faut rêver plus petit, mais rêver quand même. Et on peut très bien installer des abris à insectes, choses comme ça, et amener de la biodiversité par des plantes aussi qu'on va amener sur le balcon.
Moi, je sais qu'un de mes tout premiers jardins, c'était sur un balcon, avec des grosses jardinières qui étaient incluses dans la maçonnerie, en fait, avec beaucoup de profondeur. Et ça avait été super, parce que je mettais tout mon compost dedans, j'avais effectivement tout un tas de plantes avec différentes hauteurs, ça avait très très bien fonctionné. C'était sur l'équivalent de 1,5 m², je pense. Mais je pense qu'il faut pas que ce soit un obstacle, ce genre de choses. Ça peut se faire. Et puis on avait mis en culture aussi des choses. C'était mes premières tomates cerises, qui pour moi est un truc qui coûte cher quand c'est bon. Et du coup, c'était une très belle première réussite.
Mais on peut installer le vivant partout.
Oui, et puis il y a quand même plein de gens qui font de l'agriculture, ce qu'on appelle l'agriculture urbaine aujourd'hui, et donc c'est dans des petits espaces et ça arrive à produire quand même.
Bon, eh ben merci beaucoup Hélène, Meina, Titane, à bientôt.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Oui. À bientôt.
C'était Couleur Terre, une émission élevée en pépinière grâce aux moyens techniques de Couleur FM en Isère, une émission préparée par Titane Houben et avec William Guilhem de la web radio Power Club et Laurent Forcheron à la technique, animé par Flo Emsev de Radio Permaculture avec Hélène Hollard et aujourd'hui Meina Vernet. Vous pouvez réécouter cette émission, la télécharger mais aussi la soutenir sur radioperma.org. Merci de la soutenir. Tout comme vous pouvez vous inscrire à nos lettres de nouvelles pour recevoir directement nos nouvelles productions. Couleur Terre, cultivons la vie.